Le doux son de nos pas dans la neige. Le cliquetis d'un mousqueton avant de s'élancer sur une paroi. Les discussions matinales d'un groupe de randonneurs au départ d'un refuge. Ou encore, le bruit du torrent dans la vallée. Ça y est, vous êtes à peu près situé ? Alors bienvenue dans les Pyrénées. Je m'appelle Anne-Sophie et je suis béarnaise. Je tiens à le préciser car c'est une des raisons qui m'amène à avoir créé Latitude Pyrénées. Dans ce podcast, toutes les deux semaines, je vais à la rencontre de ceux pour qui les Pyrénées ont un goût si particulier. Sportifs, auteurs, professionnels de la montagne, passionnés, réalisateurs, aventuriers, des hommes et des femmes de tout âge et de tout horizon qui nous partagent leur vision et leur histoire. À travers des échanges d'une trentaine de minutes, mon but est de vous faire découvrir ce massif de plus de 450 km qui s'étend de l'Atlantique à la Méditerranée, partagé entre la France et l'Espagne. Mais j'espère aussi vous inspirer au travers des récits de mes invités qui ont tous quelque chose à nous enseigner. Ici, on parle donc de montagnes, mais pas que. Les montagnes sont une porte d'entrée pour questionner le rapport que l'on entretient aujourd'hui en tant qu'humain avec notre environnement et nos écosystèmes. C'est également une porte d'entrée pour évoquer des choix de vie, de carrière parfois, qui emmènent vers les montagnes, mais également regarder de plus près ce qui se passe dans ce territoire, où culture et patrimoine sont bien ancrés. Dernière petite chose, si vous aimez Latitude Pyrénées, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook en particulier, sous le nom Latitude Pyrénées, mais aussi à partager les épisodes et en parler autour de vous. Et le Graal, c'est de laisser 5 petites étoiles sur Spotify. C'est comme ça qu'on pourra faire résonner les Pyrénées, au-delà des frontières. Ces voix vous hérissent le poil ? Personnellement, moi oui. J'ai toujours été scotchée par les chants polyphoniques. C'est fort et puissant, mais à la fois doux et touchant. Les voix que vous venez d'entendre, ce sont celles des chanteurs pyrénéens de Tarbes. Ce sont les voix de 40 hommes qui chantent à l'unisson. Depuis leur création en 1942, les chanteurs pyrénéens de Tarbes n'ont jamais cessé de faire résonner la tradition des chants orphéoniques pyrénéens aux quatre coins de la France et du monde. De l'Allemagne aux Pays-Bas, en passant par les villages de nos vallées, bien évidemment. Dans cet épisode, je reçois un homme qui chante depuis 15 ans. Il s'appelle Robert Domecq, il a 70 ans et il est le président de l'association. Robert va nous raconter l'histoire de la création de ce groupe, me parler du sens de ses chansons, m'expliquer pourquoi une telle tenue, chaussettes en laine et béret sur la tête. Il se confiera également sur l'avenir de cette tradition, qui passe notamment par la transmission. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une très belle écoute à la découverte des chanteurs pyrénéens de Tarbes.
Bonjour Robert.
Bonjour.
Merci d'être avec moi aujourd'hui à la mairie de Tarbes. Je commence toujours avec cette question. Si je vous demande, pour vous, les Pyrénées, ça vous inspire quoi ?
Les Pyrénées, c'est notre terre et c'est notre vie. C'est autour des Pyrénées, c'est devant les Pyrénées que nous vivons, que nous vivons des légendes, nous vivons du travail, c'est dans les Pyrénées que nous accueillons aussi beaucoup de monde.
Vous y avez passé votre vie dans les Pyrénées, et vous avez aussi consacré votre carrière. Vous avez travaillé à la préfecture des Hautes-Pyrénées, c'est ça ?
Oui, c'est exact.
Vous en tirez quoi de cette carrière à travailler au service de... Au service des citoyens et puis de...
C'est un grand plaisir que d'aller faire des études... ailleurs, bien sûr, des études universitaires, à Pau par exemple, à Nantes. Et puis de revenir, non pas comme Ulysse après un beau voyage, mais sur la quarantaine, de revenir sur des fonctions de responsabilité. Et on travaille au service de son territoire, de son pays, au service des politiques de l'État, puisque forcément j'étais de ce côté-là de l'administration territoriale de l'État.
Vous faites aussi partie du coup des chanteurs des Pyrénées, de Tarbes. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu ce que c'est ?
Alors les chanteurs pyrénéens de Tarbes, c'est un groupe de chanteurs, un chœur d'hommes, qui existe depuis 80 ans, mais qui en fait continue dans la ville la tradition de ce qu'on appelait le chant orphéonique, qui a débuté en fait en 1856. À l'époque, au milieu du 19e siècle, et au milieu de ce mouvement de Willem qui fait chanter l'Europe pour rassembler les hommes de toutes origines, toutes conditions. Donc cette tradition s'est perpétuée à Tarbes. Il y a eu plusieurs orphéons. Et depuis les années 60, il n'y en a qu'un, les chanteurs pyrénéens de Tarbes, qui ont une certaine réputation, donc une certaine légende. Et c'est vrai que lorsque je n'étais pas au pays, avant de rentrer au pays, je baignais dans l'écoute des enregistrements ou des cassettes des chanteurs pyrénéens et j'étais très heureux de revenir au pays en voiture en écoutant les chanteurs pyrénéens sans imaginer que j'en ferais partie un jour. Et je suis dans ce groupe depuis une quinzaine d'années.
Ils traduisent quoi ces chants? C'est quoi pour vous qui vous inspirez là-dedans?
Ben, les chanteurs, c'est un orphéon dont d'abord il y a un répertoire régional de ce qu'on appelle des chants traditionnels, chants pyrénéens, chants montagnards. Mais il y a aussi d'autres styles de chants, parce qu'un orphéon peut aborder tous les styles de chants. On y chante d'autres chansons régionalistes, des créations contemporaines régionalistes, de la chanson française, des extraits d'air d'opéra. C'est un grand plaisir quand même de se regrouper pour chanter.
C'est Alain Roland, si je ne me trompe pas, qui avait créé les premiers chanteurs montagnards en 1832.
Alfred Roland. Alfred Roland à Bagnères de Bigorre, effectivement, a été le précurseur d'une grande aventure orphéonique de chanteur.
D'où ça venait? Pourquoi il avait créé ça?
Alors, je ne suis pas le meilleur spécialiste d'Alfred Roland, puisque vous devriez interroger des Bagnères hein, pour cela. À cette époque-là, il y avait une conjonction, comme je l'ai indiqué, il y avait un mouvement dans toute l'Europe de chants orphéoniques qui se développait un peu partout. Et il se trouve que dans ces années-là aussi, un inspecteur des impôts du nom d'Alfred Roland, éminent musicien, etc., est venu à Bagnères de Bigorre pour des raisons professionnelles. Et il a été séduit par les voix du pays, parce que les hommes d'ici aiment beaucoup chanter. Et il a fait en quelque sorte une académie de chant, puis un groupe. Et il a créé ainsi une grosse légende, puisque ce groupe, il l'a mené en voyage pendant je ne sais combien d'années, en France et en Europe. Et donc après, ensuite, en même moment, dans chaque vallée des Hautes-Pyrénées, puisque nous en avons beaucoup, puisqu'il y a notre département, c'est le territoire de la Bigorre et des Sept Vallées. Eh bien, il y a des orphéons qui se sont créés à Bagnères, à Lourdes, à Luz-Saint-Sauveur, à Argelès. Et à Tarbes aussi, il y a eu des personnes qui ont eu la fibre régionaliste. À l'origine, c'était des cheminots de la gare, qui sont nos ancêtres, qui ont voulu se regrouper pour chanter, et puis qui ont aussi viré vers le répertoire régionalistes qu'ils ont essayé de magnifier, d'acquérir pleinement et puis de développer.
Pourquoi ils se regroupaient pour chanter ces cheminots? C'était aussi un moyen de peut-être de s'extraire à ce moment-là de la condition et,
Quand les chœurs chantent, ils fraternisent.
Ouais.
Et donc, expliquer qu'il y a énormément de chanteurs dans ce département et en Bigorre comme dans d'autres, hein, comme dans le Béarn aussi, le Pays Basque, la Corse, etc. Bon, ben, quand les hommes chantent, ils sont heureux.
Il y a justement Laurent Cheneau, qui est chef de chœur des Montagnards de Lourdes. Il écrivait dans un livre sur les chanteurs montagnards de Bigorre. Il définissait les groupes de chants pyrénéens comme des organes municipaux qui solidarisent en leur sein les bonnes volontés villageoises. Ça vous inspire quoi, vous, cette définition?
Oui, Laurent Cheneau a tout à fait raison. Ces groupes de chants, ces orphéons, sont progressivement devenus un peu plus ou moins les ambassadeurs de leur ville, hein, Bagnères, Tarbes, Lourdes, etc. Ils participent un peu à son rayonnement. Et donc, ils ont emmagasiné toutes les traditions locales, le chant spontané, des terroirs, etc. Puis ils l'ont un peu amené un peu en ville pour ce qui est de Bagnères, Tarbes, Lourdes.
Pourquoi que des hommes, du coup? Dans ces groupes-là, pourquoi c'est exclusivement masculin? Est-ce que c'est historique? Est-ce que c'est pour les sonorités?
Non, il faudrait peut-être poser la question à notre chef de chœur, mais c'est très différent, les chœurs d'hommes et les chœurs mixtes. C'est très différent. Les chœurs d'hommes, c'est bien, ça résonne bien, il y a de belles voix, on chante à quatre voix, des voix en général forte, puissante, douce, etc., qui s'harmonise bien. C'est assez difficile, bien s'il y a évidemment des chœurs mixtes éminents, c'est assez difficile de s'harmoniser avec des chœurs de femmes parce que les voix sont beaucoup plus aiguës Et généralement, quand vous croisez des chœurs mixtes, vous avez beaucoup de femmes et très peu d'hommes, lesquels sont noyés derrière les voix féminines aiguës. Et donc, bon, il faut... Je ne suis pas assez savant sur le plan musical pour expliquer cela, mais,
non, mais ça s'explique
effectivement, on tient beaucoup à cette spécificité cœur d'homme. Mais vous pouvez trouver des orphéons, comme à Argelès ou à Bagnères, où il y a quelques femmes.
Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la tenue ? Pourquoi cette tenue et quelles sont les spécificités de cette tenue ?
Il se trouve que les chanteurs pyrénéens de Tarbes ont adopté une tenue dite de guide des Pyrénées. Au XIXe siècle, romantique, quand les Pyrénées se sont ouvertes au monde, les savants, les écrivains qui sont venus en masse dans les Pyrénées prendre les eaux, découvrir la montagne, découvrir un nouveau monde, etc., ont eu besoin d'hommes du pays pour les informer, pour les guider sur les sentiers, pour les distraire aussi. Donc ces hommes du pays, progressivement, se sont organisés avec une tenue différente suivant les vallées. Et ils ont adopté des règlements. Il y avait ainsi des compagnies de guides qui étaient des amuseurs, hein, des guides, comme on dit aujourd'hui, des guides, mais aussi des gens qui distrayaient par leur chant, par les histoires, par les veillées peut-être, qu'ils faisaient de la nomenclatura de l'époque qui venait prendre les eaux dans les Pyrénées. Eh bien, c'est un peu resté. Alors, nous, les chanteurs pyrénéens de Tarbes, ont adopté une tenue dite de guide des Pyrénées, que l'on peut retrouver à divers endroits, bon, un costume, une veste rouge, un pantalon noir, des chaussettes de laine. Bon, ça fait un peu partie de notre... Nos anciens avaient adopté cela, quelquefois ils ont porté une cape. Et bien sûr, j'ai oublié le béret, mais ça va de soi chez nous. Et voilà, bon, c'est la tenue. C'est une tenue, on appelle ça la tenue rouge. C'est une tenue qui fait toujours de l'effet dans nos concerts, peut-être moins ici, mais je vous assure que lorsque l'on se déplace à Paris, en Bretagne, dans les Alpes, etc., et que l'on voit rentrer 40 chanteurs sur scène, ça scotche un peu le public. On dit, mais de qui s'agit-il ? Ce ne sont pas peut-être des gens ordinaires. Que vont-ils dire ? Que vont-ils chanter ? Voilà.
Vous, personnellement, qu'est-ce que ça vous apporte de faire partie des chanteurs pyrénéens de Tarbes ? Quelle valeur ?
Il y a deux grandes choses. D'une part, c'est l'harmonie du chant. L'harmonie du chant polyphonique, c'est quand même très beau. D'écouter de l'extérieur, mais aussi de vivre de l'intérieur la construction de cette polyphonie et des harmonisations qui sont faites par le chef de chœur. Et puis c'est une aventure humaine, c'est une aventure d'homme, c'est une aventure aussi de concert, donc de stress d'avant-concert, de décontraction d'après-concert, voire même de libation, mais je mets des guillemets, et de voyage aussi. Hein, puisque les chanteurs pyrénéens de Tarbes ont beaucoup voyagé, parce que leur origine cheminot les a fait voyager à des conditions très avantageuses, pour ne pas dire gratuites, par la SNCF, aux quatre coins de l'Europe, à une certaine époque, qui est révolue depuis,
ouais.
Depuis que les Trente Glorieuses sont terminées.
Qu'est-ce qu'ils racontent, du coup, ces chants ? Qu'est-ce qu'ils transmettent ?
Il chante le répertoire d'Alfred Roland dont on parlait tout à l'heure, évoque des légendes rurales de la vie, des choses simples comme la chasse à l'isard. Bon, il y a l'aspect suranné des bergers, des bergères, des amourettes, etc. Bon, ça existe toujours, même si ça nous paraît peut-être un peu désuet aujourd'hui. Je vous dis, il n'y a pas que cela dans le répertoire. Mais d'une manière générale, que ce soit les chants traditionnels du passé ou bien les créations contemporaines d'aujourd'hui, comme par exemple Nada ou Cré en Occitan, ça tourne toujours autour de la vie rurale, des légendes, des valeurs, de la culture. Et quelquefois, il y a des compositions avec quelques coups de pied vers certains traits de l'actualité. Voilà.
À une époque où justement aujourd'hui, moi j'ai l'impression que... On tend un peu à se détacher de ces aspects culturels, traditionnels. On perd un peu parfois cet attachement au territoire et à la culture. Comment vous voyez-vous cette évolution justement? Est-ce que dans les concerts, c'est quelque chose qui est toujours, justement, les gens sont toujours surpris et apprécient
Dans les concerts, honnêtement, le public est toujours surpris par les voix. Nous prenons quelquefois un malin plaisir à faire quelques effets de décibels ou de nuances. Donc déjà, les gens sont surpris par cela. Ensuite, c'est un peu le style particulier des chanteurs pyrénéens de Tarbes depuis 15 ans. Il se trouve que moi-même, je présente les concerts. Et j'ai évolué un peu dans la présentation des concerts. Si au départ, je collais un peu à l'histoire, aux auteurs-compositeurs qui les ont écrits, je m'en suis un peu détaché et j'insère un peu tous ces chants dans l'actualité. Et je peux présenter des concerts ainsi à géométrie variable, que ce soit des concerts, que ce soit pour un mariage, des obsèques, enfin on ne fait pas de concert en obsèques, mais que ce soit pour des grandes occasions, concerts de Noël, etc. On peut s'inspirer de ces chants, de quelques paroles, et faire résonner avec l'actualité. Et cela crée des moments d'émotion, quelquefois très intéressants à vivre. C'est aussi tout cela que l'on vit.
C'est ça aussi qui rattache, du coup, peut-être l'aspect culturel, rattaché à l'actualité, pour essayer de faire connecter un peu ça et perdurer.
Oui, parce que dans ce type de présentation de concert, dans ce type de concert éclectique, branché sur l'actualité, branché aussi sur ses racines profondes du pays. Et bien, j'espère que cela donne l'impression de chanteurs, entre guillemets, intelligents ou inspirés, qui ne sont pas seulement là que pour le décorum, avec leurs costumes rouges et leurs chaussettes de laine, mais qui sont peut-être des chanteurs qui ont réfléchi aussi, qui vivent leur pays, et qui réfléchissent aussi sur l'actualité, qui chantent la paix dont on a tant besoin dans notre monde aujourd'hui, l'harmonie, etc.
Vous le voyez évoluer comment, justement, votre pays?
Le pays d'ici?
Oui.
Le pays d'ici? Le pays d'ici comptera toujours des chanteurs, comme toutes les sociétés. Les groupes traversent des périodes fastes et des périodes plus difficiles. Mais vous verrez qu'il y a pas mal de jeunes chanteurs. Il y a toujours un renouvellement. Et alors, ça n'est pas toujours des renouvellements linéaires. Il peut y avoir des bosses, des creux. Mais il y a quand même un bel avenir. Je vous dis, il y a beaucoup de gens qui chantent. Beaucoup de jeunes qui chantent aussi aujourd'hui. Même si... aujourd'hui, le défaut, c'est d'être relativement individualiste. Mmh. Il y a beaucoup de chanteurs de petits groupes, à deux, à trois, pour le nombril, si j'ose dire.
Ouais.
Et il y a peut-être moins d'empathie ou moins d'entrain pour faire partie d'un groupe organisé de 40 personnes, avec un costume, un chef de chœur, une rigueur, parce que c'est quand même du travail. Donc aujourd'hui, c'est quelquefois difficile de faire cet amalgame entre des jeunes et des anciens, mais il faut savoir veiller à l'essentiel, tout en permettant la liberté des jeunes qui y apportent beaucoup. Et puis, voilà, il faut leur faire prendre goût.
Comment se passe du coup cette transmission? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, peut-être un système de parrainage ou quelque chose? Parce que je suppose qu'il y a des anciens qui partent et des jeunes qui arrivent, il faut continuellement...
Oui. En général, les chanteurs sont parrainés par quelqu'un du groupe qui les a connus, qui les a entendus ou dont ils sont amis. Il y en a qui viennent spontanément, mais c'est assez rare. Et donc, ainsi débute l'apprentissage.
Comment vous organisez du coup aussi pour ces répétitions, pour les concerts? Comment ça fonctionne? Vous dites que c'est un travail, ça représente quoi en termes de travail?
Il y a une répétition par semaine, le jeudi soir pour nous, à la gare de Tarbes, enfin dans une salle du comité d'entreprise. Et donc une répétition faite par le chef de chœur qui fait travailler les quatre pupitres sur les chants qui sont en apprentissage, et dont il a écrit ou en partie ou en totalité les harmonisations. Donc c'est ça le travail, c'est la répétition. Et ensuite, ça c'est le travail collectif en semaine, mais c'est aussi, nous avons chacun du travail individuel à faire toute la semaine, puisque nous avons un logiciel d'études d'apprentissage musical, et nous devons répéter en quelque sorte, les nouveaux chants pour que la répétition se passe plus vite, l'harmonisation, etc. Par exemple, en ce moment, nous sommes en train d'apprendre en même temps 5 nouveaux chants, quoi. Donc c'est beaucoup quand même, c'est quand même du travail d'apprentissage.
Qui crée ce nouveau répertoire ? Comment est trouvé l'équilibre entre les chansons plus traditionnelles anciennes et le nouveau répertoire ?
Bon, c'est d'abord le chef de chœur, hein, bien sûr, qui a toujours un fagot imposant de chants. Et puis c'est lui qui les propose, et puis on en discute. Nous fonctionnons de manière démocratique. Nous avons un conseil d'administration, nous avons l'ensemble des chanteurs. Et puis le chef de chœur sait bien que pour qu'un chant soit bien chanté, il faut que tout le monde se l'approprie. Donc il faut qu'il plaise un peu à tout le monde. Et donc c'est un jeu. Mais les hommes aiment chanter. Donc ils aiment chanter peut-être toutes les harmonisations, quoi.
Comment on trouve l'équilibre aussi à 40, vous le disiez, 40 bonhommes, c'est quand même un sacré groupe.
Ah, et oui, il faut un peu d'ordre et de discipline. Hein. Il y a un président, il y a un chef de chœur. Et donc, il y a des arbitrages, il y a du management. il y a du management, ça se fait comme cela. Puis il peut arriver aussi que des chanteurs isolément, spontanément, suggèrent tel ou tel chant. Puis bon, on le voit en commun. Il faut, nous attachons, à, comme je l'ai dit, à, nous sommes un chœur éclectique, donc nous abordons divers styles de chants, mais nous respectons les fondamentaux, parce que nous sommes agréés comme un organisme d'intérêt général par l'administration fiscale, ce qui nous permet de solliciter des dons pour notre fonctionnement global, mais nous sommes agréés parce que nous... c'est un peu histoire, mémoire, tradition, culture. Donc l'État encourage un peu tout cela, le soutient de cette manière-là. Et c'est-à-dire que nous perpétuons la tradition du chant orphéonique dans les Pyrénées, la tradition polyphonique, et puis nous participons à la défense, à la transmission de la langue et de la culture régionale occitane. Donc c'est pour ces raisons-là que nous sommes reconnus travailleurs, acteurs dans ce secteur-là, et donc nous devons veiller quand même à que dans l'ensemble notre répertoire soit toujours imprégné de tout cela pour sa partie franco-occitane.
Et est-ce que ça serait peut-être sans l'aide justement et le support de l'État, est-ce que le groupe aurait peut-être moins perduré, François, parce que justement aujourd'hui parfois il n'y a pas toujours le support pour perpétuer ces traditions et encourager
Oui, ben, le groupe existerait, mais les conditions de fonctionnement peuvent être plus difficiles. Ces groupes-là, souvent, il faut bien le dire, on fonctionnait beaucoup avec des subventions municipales qui facilitaient leur fonctionnement. Il y a bien sûr une cotisation, puisque ce sont des associations, mais ce n'est pas suffisant pour fonctionner. Alors, les subventions publiques, d'une manière générale, ont eu tendance à diminuer un peu, avec les problèmes de fonctionnement des collectivités. Et donc les associations doivent trouver des ressources pour fonctionner, financer les voyages, leurs dépenses. Faire fonctionner en permanence un groupe de 40 chanteurs à un certain niveau, ça demande quand même un certain budget. Voilà, donc nous manions un peu tout ça, mais nous avons seulement 5% de subventions publiques. Hein. Tout le reste, c'est nous-mêmes qui...
Oui, donc c'est pas non plus...
Oui, parce que nous donnons des concerts, nous sollicitons aussi nos spectateurs. Quelquefois, ce sont les organisateurs qui nous sollicitent, qui conventionnent avec nous. Bon, voilà, on essaie de mieux vivre.
Je pose toujours la question aussi dans le podcast. On parle bien sûr des montagnes. Vous, si je vous demande les montagnes, qu'est-ce que ça vous apporte ? Quel lien vous entretenez avec ces montagnes, avec ces Pyrénées ?
Dans la mesure où elles ont toujours fait partie du décor, j'allais dire que on ne s'en rend plus compte, mais j'exagère un peu. Donc non, les montagnes, c'est bon, ça fait partie de la carte postale des Pyrénées. Le paysage montagnard est quand même magnifique. Il est visité pas en masse, mais presque, c'est la carte de visite, c'est la signature, c'est le plat signature des Pyrénées.
Est-ce que justement, vous savez, ces Pyrénées sont visitées en masse, il y a de plus en plus de, tourisme, etc. Est-ce que ces touristes viennent aussi voir vos concerts ? Est-ce que vous faites plus de concerts peut-être au niveau local ou plus de concerts ailleurs ?
Non, ils viennent voir nos concerts effectivement parce que je vous ai parlé tout début à l'origine des stations thermales. Hein, et les groupes et le nôtre aussi quelquefois, on perpétue un peu le concert dans une station thermale. Et parce que là, on aime bien y aller parce qu'on sait qu'on n'a pas un public habituel, on n'a pas un public local, on a un public de curistes, d'extérieurs qui cherchent à s'occuper, se divertir et à qui on aime bien faire entendre notre culture, nos chants. Donc ça, on le perpétue un peu dans les stations thermales, oui.
Je finis toujours le podcast par poser trois petites questions. Si je vous demande votre endroit préféré, vous, dans les Pyrénées.
L'endroit préféré pour moi, c'est le lac de Gaube, au-dessus de Cotteret, parce que je suis très sensible au romantisme de Victor Hugo, lorsqu'il a visité les Pyrénées, ce qu'il a écrit là-dessus. Et j'aime bien le lac de Gaube, avec le Vignemale au fond. J'aime bien le lac. Mais enfin, j'aime bien tous les lacs des Pyrénées.
Hein. C'est clair, il y en a beaucoup. Si je vous demande un endroit pour manger, que vous recommanderez?
Alors, pour manger, évidemment, moi, personnellement, j'apprécie les tables gastronomiques, mais nous n'allons peut-être pas en parler aujourd'hui, ce serait difficile. Il n'y a rien de plus sympathique qu'un pique-nique ou qu'un déjeuner sur l'herbe à 2000 mètres d'altitude, avec le vent dans le visage, tout a une autre dimension. À ce stade-là, à 2000 mètres, c'est bien.
C'est une activité que vous faites souvent?
Que j'ai fait, oui. maintenant un peu moins, mais c'est toujours agréable. C'est toujours agréable.
Et si vous avez une ressource, ça peut être un livre, un film, une chanson que vous recommanderiez aux gens?
Il y en a tellement. Il y en a tellement. J'allais dire que moi, je suis... vous savez, j'aime les auteurs de la chanson française. Moi, j'aime beaucoup Jean Ferrat, par exemple. Ma France est une des plus belles compositions que j'aime bien entendre, mais ça n'a rien à voir avec
non, mais ça
la
parle
conversation
aussi de...
qui nous occupe, mais ça parle de la France, du terroir. Il y en a tellement que je n'ai pas tellement de préférés.
Si on peut parler un peu, je ne sais pas, pour les gens qui aimeraient peut-être venir écouter les concerts ou un calendrier à venir pour des gens qui aimeraient dans les Pyrénées ou ailleurs venir vous écouter. Est-ce qu'il y a des prochaines dates prévues ?
Oui, alors nous avons un site internet sur lequel l'agenda de nos concerts figure. Il est régulièrement, bien sûr, actualisé. Nous allons en Corse au mois de mai. Mais l'agenda du site internet peut renseigner tout le public intéressé là-dessus. Et puis nos jeunes chanteurs animent les réseaux sociaux de leurs commentaires, de leurs photos. Donc,
vous leur avez laissé la main.
Voilà, nous laissons faire.
Super. Ben, merci beaucoup.
Je vous en prie, merci beaucoup pour votre attention.
Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. Je glisse dans les notes du podcast le lien du site pour retrouver les concerts. Et si tu aimes ce podcast, alors je t'invite à me laisser une note ou un commentaire, ainsi qu'à partager sur les réseaux sociaux cet épisode pour que Latitude Pyrénées touche toujours plus d'amoureux de nos montagnes. Je te dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Adi chats !